11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina McDean.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du meilleur de Sud Radio. Comme tous les week-ends, on va réécouter ensemble tous les moments qui ont marqué cette semaine. Et on va commencer tout de suite avec notre humoriste Sarah Cadour. Lundi dans le Grand Matin, Sud Radio, elle a réussi à piéger Pascal, le secrétaire général de Sud Radio, en se faisant passer pour une auditrice qui n'aime pas du tout Patrick Roger et Cécile de Minibus. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a su garder une maîtrise parfaite de la situation, ou presque.
Le meilleur de Sud Radio.
Allô ?
Oui, bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Oui, vous allez bien ?
Oui, qui est à l'appareil ?
Je suis une auditrice en colère.
Oui, d'accord. Dites-moi en quelques mots.
Alors, en quelques mots, votre matinale, ça ne va pas. Le Grand Matin, en effet, on passe de grand et pénible matin.
Ah oui, comme ça, directement.
Bon, vous n'êtes pas obligé de virer les deux oiseaux maintenant, hein ? Je ne suis pas votre patronne.
Bien sûr, je vous remercie. Bah, écoutez, je pense que si vous avez... On va pas pouvoir discuter de ça comme ça au téléphone. On se connaît pas en plus. Je pense que si vous avez quelque chose de particulier à nous dire, il faut nous écrire. Il faut écrire à la direction de la radio.
Et bien, justement, la lettre est prête. Elle a été écrite par les adhérents de notre association d'auditeurs. Non, mais sérieusement. Patrick Roger et Cécile de Minibus, franchement. Vous les avez sortis dans l'EHPAD ou quoi?
Vous pouvez, oui, enfin, vous écrivez, si vous avez des choses particulières, vous écrivez à la direction de Sud Radio, point.
Je ne sais pas, et si vous les remplaciez par Nabila, par exemple, avec Patrick Poivre d'Arvor.
Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, ah ben, vous avez effectivement, oui, c'est très, très varié ce que vous envisagez comme possibilité. Parce qu'entre Nabila et Patrick Poivre d'Arvor, il y a quand même une drôle de différence. Bon,
oui, mais écoutez. Justement. Hein?
Bon, écoutez, vous nous écrivez-nous à la radio.
Oui, ou sinon, est-ce que je peux avoir votre 06, Pascal?
Non, pas du tout, non. Je pense que là, vous allez un petit peu loin. Donc, vous écrivez à
la
radio 104 avenue Kennedy, et on verra qu'on peut être
Attends,
à même...
Je voilà. vais noter. Très bien, je peux mettre à l'attention de Cécile et Patrick les ploucs de l'EHPAD. Donc,
ben, vous nous écrivez au 104 avenue du président
Alors.
Kennedy.
Sincèrement, entre nous, vous ne trouvez pas que la CC de Minibus, elle bubble dans son micro? Entre nous, Pascalou.
Écoutez, on va pas entrer dans ces considérations-là. Vous nous envoyez votre message et on vous lira. Voilà.
Rendez-vous compte de tous les matins ce que l'on subit, monsieur.
Bah, écoutez,
en ce moment, en plus, avec les grèves, je passe une heure dans les transports.
Bien
écoutez,
sûr.
Ta voix de Christelle qui rit dans mes oreilles, je ne peux plus. Je ne peux plus, cette Cécile, je ne peux plus.
Ah, ben,
à la limite, Patrick Roger, à la limite, le Georges Clooney low cost. Parfois, il peut être bon. En ce moment, il y a de l'effort.
Vous étudiez ça de très près. Bon, écoutez, il faut pour tous les goûts, c'est normal qu'il y ait peut-être des programmes qui plaisent un peu plus à d'autres personnes ou pas, voilà, mais j'ai pas à entrer avec vous sur ces considérations de jugement. Voilà, je vais vous laisser.
Est-ce que vous pensez que vous pouvez les remplacer si la pétition circule?
Oh, écoutez, il faut être sérieux, une pétition, non, mais écoutez...
Mais monsieur, qui compte, c'est vos auditeurs, bon sang de bonsoir.
Tout à fait, c'est pour ça, je vous dis, écrivez à la direction de la radio et votre courrier sera examiné. Voilà, je vais vous laisser.
Je vais passer. Ah non, mais attendez, je serai là cet après-midi avec 10 des adhérents et nous allons vous déposer en main propre.
D'accord.
Nous serons à l'accueil à partir de 16h.
D'accord.
L'enveloppe en main propre.
Très bien.
Voilà. Bon. Et d'autant plus, j'ai mon petit-neveu, caméraman, qui filme des mariages et autres cérémonies, qui serait ravi de remplacer la personne qui fait vos vidéos aussi, hein, parce que vos vidéos, c'est moi.
Ah, bah alors, écoutez, vous voulez remplacer tout le monde, alors. Bon, écoutez, il faut que je vous laisse. J'ai d'autres activités, je suis désolé.
Oh,
je vous remercie de votre appel.
Pascal, quel genre d'activité, dites-moi, je vous aime beaucoup.
Je vous remercie, en tout cas. Au revoir.
Vous ne voulez pas attendre, Pascal, dis donc.
Le meilleur de Sud Radio.
L'humoriste Sarah Cadour, que vous pouvez retrouver tous les lundis à 8h20 dans le Grand Matin Sud Radio, aux côtés de Patrick Roger et Cécile de Minibus. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite du meilleur de Sud Radio avec l'invité du 10h midi, Bruno Guillon, qui a fait des confidences étonnantes au micro de Valérie Expert, Isabelle Mergault, qui lève le voile sur l'histoire de son César dans Les Clés d'une Vie, André Bercoff dans Tous ses états et l'équipe des Vraies Voix qui sont revenus sur le coup de colère d'Emmanuel Macron. Restez avec nous.
11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Si jamais vous avez loupé une ou plusieurs émissions cette semaine, eh bien vous êtes au bon endroit puisque j'ai sélectionné pour vous tous les moments les plus marquants, comme cette séquence des vraies voix de mercredi où Christophe Bordet et ses chroniqueurs ont débattu au sujet du coup de colère d'Emmanuel Macron contre des policiers en Israël. Et comme à leur habitude, ils n'ont pas mâché leurs mots. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke nobody, okay?
Bon, alors, vous venez d'entendre, pour ceux qui ne le savent pas, vous venez d'entendre Emmanuel Macron, qui est en Israël pour les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Il s'est énervé contre des policiers lors d'un bain de foule. Voilà, ça s'est passé cet après-midi. Nobody has to provoke nobody.
You want go to me back to my plane?
Personne n'a provoqué qui que ce soit. Ça nous rappelle effectivement un certain Jacques Chirac, c'était également en Israël.
What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now.
Alors voilà, Macron fait du Chirac. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça lui serve à grand-chose ou à quelque chose. Il est quand même culotté, moi, je trouve, hein, de demander... Non, mais franchement, sur le fond, demander comme il l'a fait aux policiers, par exemple, de ne pas pousser, de respecter, etc., etc., en Israël, alors qu'en France, il ne fait rien pour que les violences policières s'arrêtent. Moi, je trouve ça scandaleux.
Christophe, non, mais je le dis franchement, raison,
qu'est-ce qu'il va foutre en Israël dire ça à des policiers alors qu'il ne dit rien ou pratiquement rien aux policiers français? C'est
Vous ne trouvez pas
ce
que
président est indécent.
Cette comparaison est discutable tout de même.
Je suis j'ai tendance.
Non. Elle n'est pas discutable.
Elle est très discutable.
Non,
cher Christophe.
Non, elle n'est pas discutable. Mais je suis désolé.
J'aurais aimé. Je ne sais pas. J'ai pas vu la scène. Hein. Est-ce que vous l'avez peut-être vu la scène?
Oui. Il fait semblant de s'énerver.
Est-ce que vraiment il est
C'est du Chirac bis.
Non.
C'est de la mauvaise imitation.
Oui, voilà.
Ah oui, c'est de la mauvaise imitation parce que Chirac il avait du cœur.
Oui, mais c'est de la très
tandis
mauvaise
que là,
imitation.
on a presque l'impression qu'il a joué un jeu.
Oui,
exactement. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup de monde. Il attend qu'il y ait énormément de monde et tous les journalistes pour refaire le problème en plus de
non,
ça.
Non, mais que fait-il contre
Il veut rentrer dans une église qui est territoire français.
Qui est territoire français. Il y a un officier israélien qui est à l'intérieur. Ça monte entre les officiers de sa sécurité et l'officier israélien. Ça monte entre les deux. Chirac avait été pris à partie directement par la police israélienne. Là, Macron n'est pas du tout pris à partie par la police israélienne. Mais il se saisit du truc.
Absolument.
Et il fait une sorte de cinéma. Et là où c'est triste pour Emmanuel Macron, en réalité, d'abord c'est un mauvais remake, c'est vrai, là où c'est triste pour Emmanuel Macron, c'est que peut-être, au fond, qu'il y a peut-être un soupçon de sincérité. Mais ce qui est terrible, c'est que dans l'instant...
Ça se voit pas, hein,
dans l'instant... Tout le monde lui fait le procès,
ça
de toute façon, en insincérité. Il est là, son problème à Emmanuel Macron. Il est vraiment là. Et pour rebondir sur cette affaire, nous avions une discussion serrée avec notre invité précédent.
Luc Grasse.
Voilà, avec Luc, sur est-ce que l'opinion publique allait suivre et est-ce qu'elle dit OK à la posture et d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Il y a un sondage qui vient de sortir, qui est vraiment un institut solide sur les panels, qui est Elab. 81% des Français estiment qu'Emmanuel Macron doit bouger par rapport à la contestation et aux contestations des réformes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que malgré tout, malgré les coupures, etc., l'opinion en fait ne fait plus crédit moins à Édouard Philippe d'ailleurs qu'à Emmanuel Macron. Et on va retrouver ça tout le temps.
Oui.
À chaque fois qu'il va vouloir...
Mais des fois, est-ce qu'elle s'arrête de parler parce que...
Pardon.
Elle est très volubile, mais l'ennui, c'est qu'elle est intelligente.
C'est vrai, on est tous d'accord là-dessus.
Oui, Do you want her to go back to France?
You want I might be back to Roma?
Yes.
But because I know you want to go with me to Roma.
Le meilleur de Sud Radio.
Christophe Bordet et toute l'équipe des Vraies Voix vous donnent rendez-vous lundi de 17h à 19h sur Sud Radio. Allez, on poursuit avec un invité que vous regardez sans doute tous les jours sur France 2, c'est Bruno Guillon. Animateur des Amours a répondu vendredi aux questions de Valérie Expert et de Gilles Gansman dans le 10h midi. Et il a notamment dévoilé les raisons qui l'ont poussé à accepter de participer à l'émission Star à nu qui sera diffusée le 31 janvier sur TF1. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand, Bruno Guillon?
C'était en 2000...
1, je crois, et c'était chez Jean-Pierre Foucault dans une émission qui s'appelait On vous aura prévenu, qui était censé être un talk show à l'américaine. Mmh. Et comme toutes les émissions ouais. Odyssée à l'américaine, ça a duré ça, 3 oui. épisodes.
Ouais, ça marche en général. Et comment vous êtes arrivé là?
Ah, mais c'était pas prévu du tout. Moi, j'étais auteur sur l'émission et la première avait pas super marché. Il y avait un gars qui faisait un jeu où il fallait faire garer une Ferrari à un, ouais, un téléspectateur.
Et c'était pas... Willy Revenu qui était
non, je crois pas que c'était Willy.
Qui faisait le duplex ici.
Et alors, je sais plus. Je sais ouais. plus, en tout cas, forcé de constater que ça leur avait pas plu la première fois. Donc, ils m'ont demandé de le faire et je me suis retrouvé à l'antenne comme ça. Mais c'était pas du tout prévu c'était parce que prévu. Moi, j'ai un physique de radio, vraiment. Donc,
bah oui, mais la preuve, c'est que vous êtes à la télé tous les jours. Donc, comme quoi, il n'y a pas vrai. De.
Vous complexez encore sur votre physique?
Non, là, ça y est, ça va. Mais ça va pas depuis super longtemps. Hein. Je m'assume bien depuis 5 ans. Depuis 5 ans, je me regarde à la télé, ça va quoi. Avant, ouais, non, c'était un cauchemar.
Ah
ouais, c'était un cauchemar.
Mais alors, pourquoi on le fait? Pourquoi on dit je vais à la télé alors que je me trouve pas en forme? Ah, mais non,
parce que j'allais pas à la télé pour montrer. J'allais à la télé pour faire des conneries, pour faire des trucs qui me faisaient kiffer. J'étais pas en représentation.
Mais vous aviez du mal à vous regarder à la télé.
De dingue. Ouais, ouais.
Pas possible.
Ouais. Vous avez fait quoi? Vous avez fait des choses pour parce que c'est par rapport alors, à votre poids, mais, j'imagine.
Ah non, c'était pas que par rapport au poids. Non,
tout
non,
le
mais,
reste, mais oui, le nez, les yeux.
J'avais. Alors, si on doit faire. Moi, je suis très à l'aise avec le physique. Donc, j'avais les dents jaunes, puisque quand j'étais petit, j'ai eu un traitement à la tétracycline. Et tous ceux de mon génération qui ont eu ce traitement-là ont eu les dents jaunes, donc c'est compliqué à la télé à assumer. J'ai un nez, si on est taxé sur l'oxygène, ça va me coûter une blinde.
Ça va.
Et le yo-yo avec le poids et tout ça, donc au début, ouais, c'était un peu compliqué, maintenant je m'en fous, vraiment, clairement.
Ouais, puis
au point de se mettre à poil.
Au point de me mettre à poil, et je vais même aller au-delà de ça. On en parlera tout à l'heure de Star à nu, mais quand Arthur m'a appelé au mois de juin de l'année dernière en me disant voilà, le concept, c'est pour inciter
les gens
au cancer de la prostate et des testicules, il me dit je te préviens maintenant, on va te tourner au mois de septembre, ça te laisse 3 mois pour faire un régime. J'ai fait tout le contraire, j'ai tourné l'émission, j'ai jamais été aussi gros. Mais je pense que c'était une façon aussi de dire bah voilà, comme ça tu vois, vous
comme
voyez
ça, ouais, même,
comme
même,
je suis
ouais,
quoi.
Comme je suis, et n'ayez pas peur de vous déshabiller.
Je
ne
voulais
le
pas
médecin.
Faire un truc fake. Voilà. Et puis comme ça faisait, vu qu'à côté de moi il y avait Baptiste Giabiconi,
il y
avait des gens super gaulés, donc je me suis dit ça fera l'équilibre.
Oh non, il y a la croix.
Il y a Christophe, il y a Olivier.
Olivier de la Croix. Alors parlons déjà de ce soir, les enfants de la musique 70-80, donc 20 ans de tube. C'est un peu, ça fait penser un peu à la fureur, non? Dans le...
Oui, mais...
Il y en a déjà eu 3 numéros, c'est ça?
C'est ça, oui, parce que le premier, c'était vraiment pour voir. Il s'avère que ça a bien marché. Et depuis, c'est une émission qui, petit à petit, est en train de trouver son
trouver sa
public.
Place,
Oui, c'est un joyeux mélange entre les enfants de la télé, c'est pour ça qu'on appelle ça les enfants de la musique, c'est la même boîte de prod, et la fureur, pour le côté un peu décalé, avec des invités qui viennent en plateau et qui n'ont que pour seul but que celui de divertir et de s'amuser.
Que s'amuser, répondre à des quiz sur la musique. Et
sauf que là, on fait venir des artistes en live. Donc, donc voilà, c'est le petit truc. C'est que...
Ah oui, il y a plein d'invités.
Typiquement, là, ce soir, donc il y a le côté 80 avec le retour de David et de Jonathan. Voilà, ils avaient fait leur première télé chez nous. C'était quand même rigolo quoi, de les revoir au bout de 30 ans. Et puis, il y a des vrais moments d'émotion. Il y a un moment ce soir qui va vous marquer. Il y a Rick Azaray qui avait été très malade, qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années à la télé, qui fait son retour ce soir et qui chante, et c'était super émouvant. Voilà,
il y aura Lio, Baptiste Giabiconi, Jean-Philippe Janssen.
Alors ça, c'est ceux qui vont être en plateau pour jouer. Et puis, dans les invités, il y a Linda D'Souza aussi qui revient.
Evelyne Leclerc, qu'on n'a pas vu depuis longtemps.
Ouais. Donc non, mais c'est rigolo. Moi, j'aime bien ce mélange des générations. Moi, j'ai été élevé comme ça, voilà.
Oui, on a...
Ce joyeux mélange de culture, et ça me fait rire.
Et alors, pour vous, une chanson qui symbolise ces années-là, laquelle
Qui symbolise les années...
Il y a 70 et 80.
Les années 70-80. Oh, il y en a plein, ce serait compliqué de me demander de choisir. Dans les années 70, je dirais Joe Dassin. Parce que voilà, j'aimais beaucoup Joe Dassin quand j'étais petit et ma maman aime beaucoup Joe Dassin. Et dans les années 80, moi, c'est là où j'ai commencé à faire de la radio. Donc voilà, c'était la musique qu'on passait en FM à l'époque. Donc c'était les débuts de Jean-Jacques Goldman et tous ces trucs-là, quoi.
Le meilleur de Sud Radio.
L'expert Gilles Gansman que vous retrouverez lundi dans le 10h midi. Allez, restez sur Sud Radio. On va revenir très vite avec Isabelle Mergaud qui a fait des révélations sur son César dans Les Clés d'une vie et André Bercoff et son invité André Picot qui fait partie de la commission d'enquête de l'usine Lubrizol à Rouen. A tout de suite.
11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina Magdin.
De retour sur Sud Radio, merci de votre fidélité. Comme tous les week-ends, on écoute ensemble les meilleurs moments de la semaine que j'ai sélectionnés pour vous. Et avant de poursuivre avec l'invité de Jacques Plessis, Isabelle Mergaud, je vous propose qu'on écoute un peu de musique. Je vous ai choisi un titre d'Alicia Keys qui reste à ce jour son plus gros tube. Nommé dans 4 catégories aux Grammy Awards de 2002, chanson de l'année, meilleur espoir féminin, performance vocale en R&B et meilleure chanson R&B. Il a remporté toutes les récompenses. Voici Fallin sur Sud Radio. Sur Sud Radio, premier single extrait du premier album studio d'Alicia Keys, Songs in a Minor. Allez, on poursuit avec une invitée très drôle qui ne mâche pas ses mots malgré son petit cheveu sur la langue. C'est l'actrice Isabelle Mergaud. Jeudi, elle a fait des confidences à Jacques Plessis dans Les Clés d'une vie, notamment sur la véritable histoire de son César qu'elle n'a pas voulu aller récupérer. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Une date importante, 24 février 2007. Ça vous dit quelque chose?
Je pense.
Oui, au Châtelet. Au stade du Châtelet.
Oui.
C'est votre premier...
César.
Voilà.
Enfin, mon premier et mon dernier.
Oui, César du premier et meilleur film. Voilà. Et c'est la soirée présidée par Claude Brasseur, présentée par Valérie Lemercier, une soirée dédiée à Philippe Noiret qui a disparu quelques mois plus tôt.
Oui.
Alors vous êtes dans la salle, vous entendez votre nom?
Non, je ne suis pas dans la salle.
Vous n'y êtes pas?
Non.
Pourquoi?
Alors, il y a deux choses. Je m'étais fait opérer d'une dent, j'avais un petit renflement. Mais j'avais ma robe, j'étais habillée, j'étais pomponnée, j'étais... Et je n'ai pas pu y aller. Parce que je me suis dit, si j'ai le César, je crois que mes jambes vont trembler. J'avais peur de pleurer. J'avais peur de montrer mon émotion, de ne pas pouvoir articuler, je suis très, très nerveuse. J'avais peur que mon cœur s'emballe. J'avais peur de ne pas assurer, d'être bon. Et j'ai tout arrêté. Et j'étais faire des courses. J'étais comment ça s'appelle pour les animaux, là?
Chez Animalis.
Chez Animalis, ouais. Voilà. Il y avait une nocturne. et j'étais à la caisse. Et là, il y a une copine qui m'appelle et qui me dit: t'as le César. Et mais j'ai toujours regretté de ne pas être venue parce que j'ai beaucoup de mal à contrôler mes émotions. Quoi. Je voulais pas pleurer, je voulais pas bafouiller, je voulais être à la... Enfin, voilà, c'était le foutoir dans ma tête.
Voilà, si je comprends bien, vous avez préféré les chiens aux cabots, en quelque sorte.
Un petit peu. Non, il n'y a pas que des cabots, il ne faut pas exagérer. Oui, mais c'est un petit peu ça.
Alors, ce film a eu un énorme succès, 3,5 millions d'entrées. Oui. On l'a vu jusqu'en Israël. Et vous avez même eu le Mérite Agricole grâce à ce film.
Ah, j'étais très fière.
Oui.
Ah oui, parce que Le Monde m'avait descendu en disant, manifestement, Isabelle Mergault n'a jamais mis les pieds à la campagne, parce que franchement, c'est complètement, complètement artificiel. On n'y croit pas du tout. Les agriculteurs ont dit, mais elle nous a vraiment bien représenté. C'est eux qui ont demandé que j'ai le poireau, comme on dit.
Oui. Alors, ce film, ça s'appelle Je vous trouve très beau. Au départ, c'est né lorsque vous avez vu un reportage à la télévision sur les hommes qui partent en Russie chercher une femme.
Ah, ouais, c'était incroyable. Ah ouais, c'était des racines et des ailes. J'étais choquée, quoi. Ils allaient faire leurs courses. Il y avait un mec qu'on suivait, il allait faire ses courses. Et puis on le voyait face caméra, et puis il disait, oh, ça y est, là je suis amoureux. Je suis amoureux, j'adore. Je suis tombée amoureuse de cette fille. Et puis on lui dit comment elle s'appelle. Puis, comment elle s'appelle. Il avait même pas son nom, quoi. C'était fou, quoi. Et il l'avait ramenée en France. Et on sentait bien que la fille, elle essayait de s'en sortir de sa misère, quoi.
Ouais.
Et je me suis dit, mais il y a un sujet à faire, quoi. Sans se moquer des hommes qui vont chercher. J'ai pas d'intérêt à me moquer d'eux. Ils sont assez. Ils parlent d'eux-mêmes. Mais il y avait vraiment un sujet à faire. Ouais, j'étais inspirée là, par des racines et des ailes.
Et vous avez écrit le scénario et vous ne vouliez pas réaliser le film. Je crois que c'est Michel Blanc qui vous a convaincu de réaliser le film avec le producteur qui a dit au moins on ne te trahira pas.
Voilà, Jean-Louis Lévy. Moi, je n'avais jamais réalisé de ma vie. Et puis, je vous dis, quand j'étais dans les plateaux de cinéma, je ne regardais pas du tout comment ça. Moi, je bouquinais. Je m'en fous. Complètement, je ne savais même pas comment on éclairait. Bon, bref. Et donc, j'écris ce scénario. Ce n'était pas mon premier, j'en avais écrit plein de scénarios. Et là, Michel Blanc et Jean-Louis Lévy, mon producteur, me dit: tu dois le réaliser. Et moi, je dis: mais je ne sais pas du tout comment on fait. Je ne suis pas quelqu'un de l'image, je suis quelqu'un de l'écriture. Et Michel me dit: écoute, si tu sais ce que tu veux, il suffit de bien t'entourer, de bien expliquer ce que tu veux, et tu auras ce que tu veux. Et entoure-toi bien. Alors, moi, j'étais complètement paniquée. Puis, plein de copains me disaient: fais-le, ce film. Si ça marche pas, si tu te plantes, tu redeviens scénariste. Moi, j'écrivais un scénario par an, à peu près. Je gagnais ma vie comme ça. Et c'est le côté, t'as rien à perdre. Alors, bon, j'y suis allée. Puis, ça
a marché.
Le meilleur de Sud Radio.
Jacques Pessis, que vous pouvez retrouver tous les jours de 13h20 à 14h dans Les Clés d'une Vie. On passe maintenant à une émission qui vous fait toujours beaucoup réagir sur le compte Twitter et la page Facebook de Sud Radio. C'est Berkoff dans tous ses états. Mardi, André Berkoff a reçu André Picot, membre de la commission d'enquête de l'usine Lubrizol à Rouen. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Les océans sont des poubelles et les fronts de mer sont souillés. Les Tchernobyl d'Henri Bambel voient naître des fœtus morts-nés dans 50 ans.
Alors, des Tchernobyl en ribambelle, peut-être, en tout cas, on sait que Et ce n'est pas par hasard qu'on parle du climat, qu'on parle de la pollution, qu'on parle des accidents, qu'on parle de tous les accidents. On en parle, mais on en parle quelquefois, allez, il faut le dire, en intermittent du spectacle. Et là, ce n'est pas un spectacle, justement. Ça peut être un drame. Je rappelle les faits. L'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen a eu lieu le 26 septembre 2019 dans une usine de produits chimiques de la société Lubrizol classée Seveso à haut risque. Donc cette usine synthétise et stocke des produits chimiques, phosphorés, organisosulfurés, destinés à être utilisés comme additifs pour lubrifiants. Bien, le feu a pris dans des installations d'affûtage et entrepôts et a touché la partie d'un site voisin. Un épais panache de fumée noire s'est formé, atteignant plus de 20 km. Alors, heureusement, ni morts ni blessés ne sont à déplorer, selon les premiers bilans. Et donc, il y a, on a dit, la liste des produits impliqués dans l'incendie. Des interrogations demeurent, et puis on a dit, mais non, écoutez, tout va bien, tout va bien. Et le calme est retombé, et on a pris quoi ? La poussière chimique sous la moquette ? On a parlé de quoi ? On n'a plus parlé de rien. Sauf que, il y a une commission d'enquête qui s'est formée, et heureusement. Mais voici ce que disait la porte-parole à l'époque, le 3 octobre 2019. Donc, voici ce que disait Sibeth Ndiaye sur l'incendie de Rouen.
Vous habitez près de l'usine Lubrizol, vous seriez resté chez vous ?
Moi, je serais resté parce que je suis quelqu'un d'un peu rationnel et j'essaie de faire confiance dans les gens qui savent. Les gens qui savent, ce sont des experts.
Vous voyez votre fils ou votre fille en train de vomir, en train d'avoir des difficultés pour respirer, avoir des maux de tête, vous restez ?
Ben, je vais éventuellement, si il y a des troubles qui sont graves, je vais à l'hôpital. On a regardé d'ailleurs, c'est important à savoir, le nombre de passages aux urgences qu'il y avait eu du fait de gens qui se plaignaient de conséquences du panache de fumée ou de conséquences de l'incendie. On a un peu plus d'une centaine de personnes. Donc on n'est pas dans des proportions aussi importantes que ce qu'on a pu connaître.
À peu près une centaine de personnes en une semaine.
Exactement.
En plus.
En plus. Et donc on n'est pas dans les proportions de ce qu'on a pu connaître pour d'autres catastrophes industrielles.
Alors effectivement, Sibeth Ndiaye dit qu'elle serait restée, elle parlait à Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous avons demandé à André Picot, qui est président de l'association Toxicologie Chimie, et il a été reçu d'ailleurs par cette commission d'enquête. Bonjour André Picot.
Bonjour.
Alors, dites-moi, vraiment, il y a eu quelque chose d'assez étonnant. Pendant quelques mois, on en a beaucoup parlé, évidemment, et à juste titre. Et puis, il y a eu un silence. Et puis, heureusement, il y a une commission d'enquête. Et puis, vous vous êtes exprimé. Je vous ai écouté sur Public Sénat, notamment. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous entendez Sibeth Ndiaye, il disait, moi, il n'y a aucun problème. J'aurais été à Rouen, je serais resté. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, André Picot ?
Écoutez, je crois que aussi bien sur c'est le premier accident ou incident, selon de quel côté qu'on se place, en 2013, on assiste là avec cet accident Lubrizol, comme on a assisté du reste avec AZF et même Seveso, à vraiment une absence de communication. C'est-à-dire que vous avez d'une part les directions de cette usine qui dit c'est pas bien grave, les produits qu'on a stockés, on va vous donner la liste, puis quand on voit la liste, bon, c'est incompréhensible, ce sont que des noms très compliqués, des mélanges, etc. Donc ça, on peut rien en sortir.
On ne sait pas ce qu'il en est et quels effets ça a. Ouais.
Et du côté, alors maintenant préfectoral, eh bien c'est pareil. On fait dans le cas, par exemple, de cet accident de 2019, la première dépêche du préfet était de dire, eh bien, écoutez, nous stockons des hydrocarbures, bien entendu, donc des solvants, des carburants, bien, bon, c'est classique, et des huiles. Et alors, c'est là qu'on se pose la question, vous êtes un citoyen moyen, on vous parle d'huile. Bah vous dites, alors, c'est de l'huile alimentaire ?
Oui, quelle huile, oui.
Quelle huile ? Or, là, ce flou, à mon sens, il est voulu. C'est-à-dire que à partir du moment où il aurait parlé d'huile industrielle, il aurait fallu dire que, comme vous avez dit, il y avait des huiles qui contenaient des produits azotés, des produits soufrés, des produits phosphorés. Tout ça, quand même, n'est pas de l'huile de colza ou de l'huile d'olive.
Oui, c'est pas du bio, c'est pas du bio. Ouais. Merci en tout cas de votre témoignage. C'est très important que l'on suive cela.
Le meilleur de Sud Radio.
Et rendez-vous lundi à midi avec André Bercoff sur Sud Radio. Allez, on va revenir dans un instant pour la suite du meilleur de Sud Radio avec votre rubrique 5 questions pour tout savoir. Et Cécile de Minibus a reçu cette semaine la journaliste Isabelle Freinet. Ne bougez pas.
11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina Magdine.
Merci d'être avec nous pour la suite du meilleur de Sud Radio. Comme chaque week-end, j'ai sélectionné pour vous tous les moments les plus marquants de cette semaine. Et avant de retrouver la rubrique 5 questions pour tout savoir, je vous propose d'écouter un titre de Claudio Capeo que j'adore. Une balade au piano dédiée à son fils. Voici Riche sur Sud Radio.
Il y aura les jours avec et les jours sans. Les amis qui retourneront leur veste en un rien de temps. Les jours de peine qui nous enchaînent et les tourments. Les amours chiennes. À l'âge où l'on renie son père, tu me renieras. Et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras merde, des claques se perdront, c'est comme ça. Je faisais la même. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils. Et pourtant, moi, je serais fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas plus fort, mon fils. Et à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires, Noël, etc. Comme tous les soirs, il y aura ta mère qui attendra que tu reviennes. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu? Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu? Je rêverai de ton visage, je ne saurai plus. Quel est ton âge? Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils. Et pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas plus fort, mon fils. Et à deux, on sera millionnaire. Je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père, tu seras riche d'un père. Mon petit empereur, ne deviens pas un grand homme, sois juste un homme grand. C'est suffisant. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils. Et pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras sûrement pas le plus fort, mon fils. Et à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père.
Riche dans le meilleur de Sud Radio, magnifique titre de Claudio Capeo issu de son album éponyme, resté numéro 1 des ventes pendant plusieurs semaines. Allez, on va terminer avec votre rubrique 5 questions pour tout savoir. Lundi, Cécile de Minibus recevait la journaliste Isabelle Freinet dans le cadre de son livre qui traite des relations entre les enfants, les parents et les écrans. C'était dans le Grand Matin Sud Radio, écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Ce matin, on vous parle des écrans avec ce livre d'Oser, les écrans en famille avec Isabelle Freinet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialisée en santé et développement personnel depuis 15 ans et en sophrologie. Vous avez écrit ce livre avec Bernard Antoine aux éditions First. Alors, soyons clairs, c'est un état des lieux, des écrans, des enfants et des parents. Parce que quand on lit votre livre, oui, effectivement, les chiffres sont assez édifiants parce que l'OMS a sorti des chiffres, entre 6 et 10 ans, les écrans, c'est 30 minutes par jour, entre 11 et 14, c'est 1h15, et de 15 à 17, c'est 2 heures pour les enfants, ce qui est quand même assez énorme. Mais vous pointez aussi la responsabilité des parents, parce que c'est ça avant tout, c'est l'éducation et le laisser faire des parents.
Je pense qu'en fait, plus tôt on met des règles et justement un cadre, mieux on va s'en sortir à des âges plus sensibles, à savoir le tournant du premier smartphone vers 11-12 ans, etc. Donc en fait, ce qu'on a voulu, c'est vraiment écrire un livre en co-expertise, donc avec mon confrère Bernard Antoine, qui est addictologue, parce qu'en fait, on entendait beaucoup d'inquiétudes qui étaient légitimes, et on s'est dit comment on peut reprendre le contrôle et donner en effet un cadre, mais en donnant en effet l'exemple nous-mêmes, parce qu'on le sait très bien, un bébé nous imite, et il va y avoir tout des mimétismes qui vont se mettre en place. Et ça, on ne s'en rend pas compte forcément en tant que parent. Quand on embête la tablette aux toilettes ou qu'on répond à un appel en téléphonant, tout. Il y a des chercheurs canadiens qui ont appelé ça la technoférence. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez être dérangé avec le mode intrusif, que ce soit par des notifications, si vous voulez, à chaque fois que vous allez être dérangé, c'est des temps au détriment des temps de partage en famille.
Alors, vous parliez tout à l'heure d'addictologie. Les écrans, au même titre que la drogue et que les jeux d'argent, sont considérés comme addictifs. Mais ça, c'est très grave parce que ça engendre quand même pas mal de pathologies, du stress, de la dépression, voire même des suicides.
Oui, alors ce qu'on a voulu faire dans cet état des lieux, c'est qu'on parlait beaucoup d'addiction, les écrans sont addictifs, etc. Addictif, oui, mais attention quand on utilise le terme d'addiction. On a voulu vraiment rassurer. C'est un livre qui est positif.
Oui, oui.
Et on voulait pas tomber
dans... Il y a plein de tests à l'intérieur. Hein, vous pouvez vous tester. Hein.
Voilà, des tests, des exercices. On n'a pas voulu être ni polémique, ni anxiogène. L'idée, c'était de dire comment on va s'en sortir et surtout expliquer, dans cette première partie du programme IDéclic, d'explorer les mécanismes sous-jacents de l'addiction, comment ça se passe. Et en fait, aujourd'hui, les écrans, des temps d'exposition trop importants, un abus, une dépendance et une addiction, si vous voulez, il y a des paliers progressifs. Et donc un enfant, on ne va pas dire mon enfant de 8 ans développe une addiction, c'est-à-dire que attention au temps d'écran, mais dans le cerveau, on a interrogé des neurobiologistes pour faire ce livre, chercheurs à l'INSERM, etc., qui nous ont dit concrètement une addiction avec l'alcool, la cocaïne, dans le cerveau, il se produit des choses, je ne vais pas rentrer peut-être de manière trop
technique. Non, parce qu'il faut le lire surtout.
Voilà, mais en tout cas, en termes d'écran, on peut parler de dépendance comportementale.
Oui.
À l'arrêt de bus, je sors mon téléphone, alors que j'en ai pas spécialement besoin, je vais chez le médecin dans la salle d'attente, je prends mon bain, etc. Donc ça, dépendance comportementale en fonction des situations et des émotions, et affective, on le voit plus aussi à l'adolescence, quand là on peut parler d'un refuge ou qu'il y a un enfermement qui peut se produire
absolument,
un peu dans les écrans.
En tout cas, vous donnez pas mal de conseils justement.
Comment reprendre le contrôle pour les parents?
Alors en fait, déjà, arrêtez de prendre votre portable à table devant vos enfants, ça c'est bien.
Alors c'est vrai que nous, on s'est inspiré aussi d'experts qui ont dit des choses comme par exemple Sabine Duflo sur la logique des quatre pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on reprend déjà la main sur les besoins vitaux, à savoir dormir, manger, respirer et interagir avec les autres, on s'en sort déjà pas trop mal. Réveil, donc on a proposé des plannings.
Un planning, oui.
Voilà, deux plannings, donc un peu...
Ah bah c'est bien ça.
Alors vous imprimez, vous collez sur le frigo ou la porte d'entrée, et on s'y met en famille, c'est une co-construction familiale. Et à chaque fois qu'on arrive à se réveiller sans smartphone, à manger sans smartphone, vous cochez. Et là, on s'est appuyé sur les techniques cognitivo-comportementales. Et plus vous répétez ou vous désapprenez, c'est-à-dire, par exemple, vous avez votre smartphone le matin, et ben vous allez commencer à dire demain, non, après-demain, non. Mm-hmm. Et vous allez répéter au moins une vingtaine de fois. Nous, on propose sur un trimestre. Et là, vous allez désapprendre des mauvaises habitudes.
Ouais. Bon, voilà. Conseil, achetez ce livre. Hein.
C'est tout est à lire, les bons conseils et le déclic, effectivement, pour quitter un petit peu les écrans. Ça s'appelle Doser les écrans en famille. Isabelle Freinet et Bernard Antoine, des spécialistes en la matière. Elle est venue sans portable, d'ailleurs, ce matin. Aux éditions First Edition. Mais tweeter quand même le livre.
Le meilleur de Sud Radio.
Et 5 questions pour tout savoir, c'est tous les jours à 9h50 dans le Grand Matin, Sud Radio, donc rendez-vous dès lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous dans le meilleur de Sud Radio. Pour réécouter l'émission, c'est simple, il suffit de vous rendre sur notre site sudradio.fr dans la rubrique podcast. Et puis ne bougez surtout pas, puisque c'est le moment de retrouver Nathalie Schrein-Guirma pour C'est ça la France, suivie d'Alain Marty pour Invino. Passez une excellente fin de week-end à l'écoute de Sud Radio. Ciao.